Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM 20h pétante en ce mardi 12 septembre 2023. Et au menu de cette émission ce soir, on va parler de quoi ? On va parler de Paul Pogba. Eh oui, le joueur gâché, la pioche, l'international français justement du côté de la vallée du Piémont à la Juventus du Turin. On reviendra sur ce cas de dopage. Tranquillement, on avec vous, chers auditeurs et auditrices. On parlera de quoi ? De Griezmann, peut-être le favori de Deschamps, ou à son corps le favori des supporters des Bleus. Ce soir, on le rappelle, du côté de l'Iduna Park, eh oui, adversaire du Paris Saint-Germain dans cette fameuse Coupe des clubs champions, cette Champions League plus précisément, édition 2023-2024, avec dans son groupe, on le rappelle, le Milan AC et aussi Newcastle. On retrouvera les Bleus du côté de ce mur jaune dans l'antre du Borussia Dortmund face à la Mannschaft. L'Allemagne en pleine reconstruction, tout comme son nouveau sélectionneur. On reviendra justement sur ce match du côté de l'Allemagne, 21h on le rappelle, rien que pour vous chers auditeurs et auditrices, c'est l'avant-match ce soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, le numéro du standard, on le rappelle, le 01 53 48 3000, le débat du jour, le résultat justement de ce match de ce soir d'Allemagne versus France, selon vous peut-il remettre en cause la ligne de conduite des Bleus et aussi de son sélectionneur qui n'est autre que Didier Deschamps. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Tamsport. Allez, c'est parti, on commence en présentant la fine équipe qui m'accompagne ce soir sur l'antenne de Beurre FM.
Time Sport. Les plus parlés.
Gagnez vos places justement pour le concert ou Beurre FM, votre radio préférée, et en partenaire avec un partenariat avec nos confrères de M6. Et oui, le concert concernant cette tragédie au Maroc, tous avec le Maroc, diffusé de demain sur les antennes du groupe M6, sur la chaîne M6, justement pour essayer de remporter ces fameuses places de concert. Rien de plus simple. Vous dirigez, vous saisissez le site internet de Beurre FM, beurrefm.net, voilà, tout simplement, et vous tomberez directement, voilà, sur la rubrique du concert, tous au Maroc, voilà, concernant ces fameuses places que l'on vous fait remporter, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, tous avec le Maroc. C'est le concert événement de demain. Voilà, on pourra vous donner même des infos à l'antenne au 01 53 48 3000. Ce soir avec moi, pour m'accompagner, on aura le coach étoilé, Mourad sera de la partie, sans oublier Hervé. Bonsoir Hervé, comment
bonsoir
ça va ?
Bonsoir Bilal, bonsoir, ça va très bien. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce mardi.
Et ben voilà, les auditrices nous écoutent, les auditeurs aussi, Juan Trossé est là aussi, comment ça va Juan Trossé ?
Voilà, bien Hervé, très bien, ouais. D'autant plus que l'Espagne joue tout à l'heure.
C'est ça,
face à l'Espagne. Face à
la grosse équipe de Chypre.
Ouais, la grosse équipe de Chypre. Il fait sa rentrée ce soir, vous l'avez reconnu, c'est Mickaël. On a aussi l'Algérie face au Sénégal en match amical. Hein. Bonsoir Mickaël, comment ça va ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bah ça va, j'ai juste l'impression d'avoir amené la pluie avec moi ce soir. Et très content d'être ici, très belle équipe.
Tu nous ramènes toujours les défaites, les pluies, les éliminations du Paris Saint-Germain.
Et surtout une grosse pensée au peuple marocain dans cette épreuve très compliquée.
Aïe, aïe, aïe. Ah ben justement, il est avec nous ce soir. C'est Mourad qu'on retrouve cette semaine. Bonsoir Mourad, comment ça va ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien.
Oui Mourad.
C'est une grosse soirée de football ce soir. Hein.
Ouais, grosse soirée de football.
Intercontinental.
Ouais, intercontinental. Ouais, international, c'est ça. On l'a rappelé. L'Algérie, match amical face à. C'est Mahrez face à Sadio Mané, c'est ça. Hein.
Exactement.
Les Algériens face aux Sénégalais. Ouais.
Le vainqueur de la CAN 2019 face au vainqueur de la CAN 2022.
Donc. Ouais, on a Yacine Bouhadi du côté de Félix Bollaert à Lens, c'est ça. Les Marocains.
Oui.
Les Marocains. Les Lions de l'Atlas jouent dans le nord de la France. C'est bien ça. Ouais, Eddy, en tout cas.
Qu'on soutient d'ailleurs, et grosse pensée. Ouais. Toutes les victimes de ce tremblement de terre. Moi, j'ai pas eu l'occasion de participer à une émission depuis cette catastrophe. Donc,
on a fait des spéciales, notamment dans la matinale avec Foudil et toute l'équipe.
Et on salue Beurre FM qui est toujours présent sur tous les drames.
Farkan et Vanessa.
Voilà, qui touche un peu les pays du Sud, entre guillemets, et pas que. Donc voilà, c'est un petit message parce que j'ai pas eu l'occasion de passer en émission depuis tous ces Ouais, toutes ces catastrophes, voilà,
c'est
exactement.
Ça. Mourad, on le rappelle tous avec le Maroc, c'est le concert événement de demain où Beurre FM est partenaire de cet événement-là. Rien de plus simple. Pour essayer de remporter des places, vous connectez sur le site internet de Beurre FM, beurrefm.net. Voilà. Et vous aurez justement toutes les informations sur le site internet. Rien de plus simple. On va parler de ce match de ce soir. 21h, c'est l'équipe de France. Avant de parler du match de ce soir, Allemagne face à l'équipe de France, on va parler aussi de Paul Pogba et aussi quelques... Oui, on a le football qui est solidaire envers le Maroc après le séisme. Comme le dit si bien l'oreillette Fouzi, le match amical du football, de football, excusez-moi, entre le Maroc et le Burkina prévu ce soir à Lens a été maintenu tout de même malgré le séisme au Maroc en signe de solidarité. Tout de même, on le rappelle, à l'antenne, une collecte de dons de première nécessité aura lieu à l'entrée du stade de Lens, Félix Bollaert, pour les victimes de la catastrophe. Voilà, ça c'est dit. Paul Pogba, on en dit encore un peu plus sur Paul Pogba, on sait pas trop. Maintenant, il paraît c'est concernant des produits. Je vais pas faire comme Boula, américain, pas américain, mais voilà, on nous dit que on a eu pas mal de. Je vais retrouver l'information qui est tombée. Hervé, on t'écoute. Paul Pogba, on en parlait hier.
On en parlait hier et
sur l'antenne.
Ça sent le roussi en fait.
Ouais, le roussi.
Il est déjà suspendu à titre provisoire. Depuis
complément alimentaire
voilà, depuis,
américain.
Depuis hier, il y a le clan Pogba avec en tête de gondole Rafaela Pimenta, son agent, qui a informé le déroulé prochain d'une contre-expertise pour tenter justement d'affirmer les résultats qui ont été divulgués hier. Bah ça sent la fin. Après moi je suis pas vraiment surpris dans le sens où voilà,
c'est fou quand même ce que tu dis, t'es pas vraiment surpris.
Pas surpris, c'est pas que je suis pas surpris, mais peut-être que dans son désir de vouloir revenir sur les terrains au plus vite, peut-être qu'il a pu faire commettre une erreur. Après voilà, Pogba, ça fait quand même depuis 2021 qu'il a cessé d'être un joueur de foot professionnel. C'est quand même un joueur qui fait davantage parler de lui, plus pour de l'extra sportif que pour du sportif. Donc ce serait vraiment triste pour lui, parce que comme je le disais hier, si les résultats étaient confirmés, il serait suspendu pour 4 ans. Sachant qu'il a déjà 30 ans.
Ce serait la fin, donc.
Ce serait pratiquement la fin de sa carrière.
Sachant qu'il a fait un an qu'il joue pas.
Sachant en plus que ça fait un an qu'il joue pas.
Ah si, il a joué 100 minutes. J'ai vu qu'il avait joué 100 minutes depuis 2022, depuis août 2022.
Paul Pogba, c'est comme 8 matchs.
Autant que moi.
C'est comme 8 matchs depuis qu'il est arrivé à la Juventus. On se souvient que du côté de Manchester United, sa dernière saison était quand même très compliquée, très laborieuse.
Ouais.
Donc, comme je le disais, pour moi, Paul Pogba, j'ai l'impression que depuis l'Euro 2021, il a quand même disparu des radars. Il fait plus parler de lui pour l'extra sportif, que pour autre chose. Et c'est vraiment dommage.
Ouais, Mourad, un mot concernant Paul Pogba.
Oui, non, c'est je pense que Hervé a bien résumé. C'est une fin assez triste. Après, je sais pas quels sont les résultats. Je pense que ce qu'il fallait prouver, c'était l'intentionnalité ou pas, justement, de cette prise de produit. Après, là, on en a parlé, hein, je t'ai envoyé, on échangeait par texto Bilal tout à l'heure sur, j'ai l'impression que, que Pogba aurait pu servir d'exemple parce que le dopage est tellement présent dans le monde du football, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Il y a d'ailleurs
C'est Jouba, c'est marrant parce que c'est Jouba. C'est passé l'appel.
Il y a un très bon livre que je recommande du docteur Jean-Pierre de Mondenard
sur
le dopage qui s'appelle La loi du silence et qui prouve justement.
Qui est indisponible justement.
Qu'on a essayé d'avoir, qui est très sollicité et qui prouve justement que le dopage n'existe pas simplement dans le cyclisme, mais il existe aussi dans le football. Et justement, dans le football, il y a très peu de contrôle.
Ouais.
Donc voilà, Pogba est aussi peut-être une victime de par son train de vie, Pogba, c'est aussi des blessures, c'est. Des querelles familiales, et c'est aujourd'hui le dopage. Donc ce qui est malheureux, après la testostérone, elle est au cœur de l'actualité, il n'y a pas que lui. Rubiales aussi est impliqué dans une affaire de testostérone, mais ça, c'est au sens figuré.
Ouais.
Donc voilà, et c'est triste pour Pogba. Donc moi j'attends l'intentionnalité, parce que a priori, on peut s'infliger ce produit de manière intentionnée ou inintentionnée, je ne sais pas si ça se dit, mais il faut le prouver maintenant. Oui. Et une fois que c'est fait, il y a peut-être aussi, il y a plusieurs scénarios à prendre en compte. Il y a peut-être aussi la Juventus qui peut-être qu'il y a intérêt à ce que Pogba ait pris ses produits de manière intentionnelle, puisqu'il a encore 3 ans de contrat. C'est peut-être je crois que c'est le plus gros salaire de Serie A.
8 millions.
Donc voilà, je vais pas faire mon complotiste ici, mais voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et je pense que Pogba est la bonne victime. Voilà. Et la pioche, le pauvre, elle a pas fini de creuser.
Tout le monde attaque le club piémontais, hein, on le rappelle.
Le club piémontais, on accuse souvent la
Juventus.
Leonardo
Bonucci, il a attaqué, hein. Il souhaite porter plainte contre son ancien
juste pour finir, et ensuite je laisserai ma parole à mes collègues. On attaque souvent la Juventus, justement, mais j'ai l'impression que les scandales de dopage sont souvent découverts à la Juventus. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur club qui combat, le dopage à l'échelle au niveau de la FIFA ou au niveau de l'UEFA. Après, il y a eu le PO, ça a été mis au grand jour avec la Juventus à l'époque des scandales autour de Didier Deschamps, etc., etc.
Après, Parma,
mais là j'ai l'impression que la Juventus c'est la tête de dongole en fait des scandales de dopage. Donc peut-être que c'est peut-être le club qui exerce le mieux les contrôles autour du dopage.
Il y a aussi Palomino de l'Atalanta l'année dernière qui avait été contrôlé positif.
Bien sûr.
Comme quoi, bon, ça touche pas uniquement que la Juve, mais c'est vrai que les contrôles antidopage sont quand même assez rares du côté du monde du football.
Oui, heureusement, on l'écoute avec.
Je sais pas si c'est la bonne victime à coller les deux mots, c'est un peu compliqué. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'il a 30 ans, qu'il a un gros contrat, qu'il a encore 3 ans avec la Juventus, qu'il n'est pas du tout performant parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il a été blessé. Son passage à Manchester n'a pas donné ce que tout le monde attendait. Et du côté de la Juventus, c'est pareil. Mais c'est vrai que les premières explications qui ont été données laissent quand même assez perplexe. Un complément alimentaire venu des États-Unis. Ouais. Conseillé par un médecin.
On rappelle un peu le cas de Samir Nasri,
un ami médecin qui n'est pas au club mais extérieur au club. En fait, c'est l'explication en soi, cette première explication qui laisse quand même un peu perplexe.
Après, sans jeu pour de jeu de mots, fallait pas avaler aussi
un joueur
qui est responsable des produits.
Pour un joueur qui a effectivement 30 ans, une grosse carrière derrière lui, et qui n'est pas du tout novice dans ces affaires-là. Enfin, novice dans le sens où c'est un joueur professionnel depuis très longtemps et il sait à quoi s'attendre. Attendons effectivement voir, peut-être que c'est la victime propice parce que il a ce gros contrat et ces 3 années encore qui le lient à la Juventus. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, les premières explications qui ont été données laissent un peu perplexe. Et puis, est-ce que, à ta réponse, c'est la fin de sa carrière? Je pense qu'effectivement, c'est la fin de sa carrière. Il ne va pas se remettre de cette affaire. D'autant plus qu'effectivement, il pourrait être sanctionné. Et là, c'est certain que le foot, c'est fini pour lui.
Petit parallèle, il y a aussi l'ancienne numéro 1 du tennis féminin, Simona Halep, qui elle aussi était suspendue 4 ans pour dopage.
Oui. Voilà. Donc, elle a fait appel, Simona Halep.
Donc voilà, c'est pas, faudrait pas ériger Paul Pogba en tête de turc. Voilà, ça existe, c'est très courant.
Je pense pas que ce soit forcément un matraquage médiatique, j'ai l'impression, autour de Paul Pogba.
On essaie, on mélange tout. C'est surtout que c'est un joueur extrêmement médiatique avec son dopage, comme si c'était infligé ce produit peut-être de manière intentionnelle. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que c'est une victime dans cette histoire.
Après, oui, il faut, comme on le dit, voilà, et tant qu'il n'y a pas la contre-expertise derrière, il faut qu'il soit, voilà, il est présumé encore, il y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte. Maintenant, moi, Paul Pogba, ce que je vois, c'est que, carrière internationale avec l'équipe de France, quand même, on peut pas lui enlever. Maintenant, sa carrière en club, parce que la question, c'est est-ce que Pogba, c'est un gâchis? C'est vrai qu'en club, ça fait un bon moment qu'on n'a pas de référence de Paul Pogba, notamment en Ligue des Champions, ce qui est vraiment dommage. Aujourd'hui,
pour
il a 30 ans.
En club, faut jouer.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et puis, il a fait le choix de revenir à Manchester, un peu au sommet de sa carrière quand il était à la Juve. Manchester, qui est quand même un club très compliqué depuis des années. Donc, ça aussi, je sais pas si c'était la bonne solution. La bonne solution, c'est celle de Luis Campos il y a un an, parce qu'il y avait des discussions avec le Paris Saint-Germain à l'époque. Et c'est vrai que Pogba, quand on voit ce qui se passe depuis un an, on a quand même l'impression que c'est quand même un nid à problème. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est pas de sa faute? Maintenant, c'est un joueur professionnel. Il est censé être un minimum avisé sur ce qu'il peut prendre et pas prendre.
Tu sais, Mickaël, là où j'ai des doutes, c'est que justement, je parle sous le contrôle de mes collègues, peut-être que vous y connaissez mieux que moi, c'est que la testostérone, on la prend pour mieux récupérer, donc pour gonfler les muscles et pour booster la récupération. Mais Pogba, il joue pas.
Pourquoi prendre
ce type de produit s'il fait pas 70 matchs par saison?
Parce qu'il était sur il était sur le retour avant de se refaire une petite blessure. Il était sur le retour, donc je pense que dans sa préparation physique,
on va revenir sur le cas de Paul Pogba et du dopage aussi dans le sport médical.
Mais contre le dopage, c'est.
Merci à toi. On va marquer d'une courte pause et on reviendra avec vous, chers auditeurs et auditrices.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 18 minutes en ce mardi 12 septembre, le 01 53 48 3000, c'est pour réagir. Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, avec toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne ce soir autour de la table, on a Mourad, on a Mickaël, sans oublier Hervé et Juan Trossé. Allez, on va prendre du côté du standard, allez, notre consultant Jouba. Jouba qui est très très loin dans l'hémisphère sud. Bonsoir Jouba.
Bonsoir à tous les amis.
Comment ça va Jouba?
Avec vous. Ben ça va.
Salut Jouba.
Content d'être avec vous. Grand bonjour à la France.
Ouais.
À tous les consultants, Mickaël, l'ami d'enfance qui est là. Ça fait très plaisir, le meilleur ami évidemment.
Merci, frère.
Ouais. Big up à tous les flics racistes du sud.
Ben Jouba. On va rester tranquille là Jouba. Vous passez sur une antenne nationale Jouba. Non Jouba, tranquillement.
On est national.
Oui, eh ben justement. Eh ben justement Jouba. Grand bonjour au sud de la France,
local,
à l'est, à l'ouest,
local,
au nord bien sûr.
J'aurais été local.
Bien sûr Jouba. On enchaîne, on parlait justement de dopage, du cas d'un certain Paul Pogba, l'international français. C'est vrai qu'on en parlait avec toi Jouba sur cette antenne concernant le dopage de cette grande boucle qu'est le Tour de France, et tu m'avais dit sur l'antenne de Beurre FM, Bilal, attention, il n'y a pas que dans le cyclisme qu'il y a du dopage, il y a aussi dans les autres disciplines. Mourad en parlait, on t'écoute Jouba.
À l'époque on avait une petite querelle, je me rappelle, avec tout plein d'amour parce qu'on est frères, hein, Bilal, hein,
ouais.
Autour du dopage dans le cyclisme, et moi je t'avais dit c'est systémique, et donc dans le cyclisme c'est systémique. Mais dans le foot, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on découvre autour de Paul Pogba, pardon. Mais donc qu'un YouTuber que tu dois peut-être connaître, qui s'appelle Thibaut InShape, a dit que c'était aussi systémique à haut niveau cette fois-ci. Moi, je pense que le dopage, c'est quelque chose qui est, hélas, malheureusement, systémique, parce que on est dans des enjeux trop importants et qu'on leur demande toujours beaucoup plus. Et qu'aujourd'hui, avec toute la présomption d'innocence, parce que pour le moment, ça n'a pas encore été condamné ou quoi que ce soit, mais il faut prendre en compte tous ces risques qui sont les risques du dopage et tous ces enjeux-là autour du dopage. Voilà, donc je pense que il y a cette question-là à prendre en compte. Jusqu'à quand on peut se servir du sport à des buts de performance, à des buts de...
Jouba, tu veux dire que le joueur de football... Tu veux dire que les joueurs de football ne carburent pas à l'eau de source?
Ah ben, c'est dur. Hein,
tu me surprends là, Jouba.
Si tu carbures à l'eau de source, tu vas sur le banc de touche, je pense.
Ben, Pogba, il est sur le banc de touche, effectivement, et puis...
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que peut-être qu'il a eu... Encore une fois, on met tous les guillemets, on met tout le conditionnel adéquat. C'est que, voilà, je pense que si tu, à un moment donné dans ta carrière, tu n'as pas recours à ces moyens-là, tu finis sur le banc de touche, même si Paul Pogba, on sait que c'est très compliqué pour lui, voilà, avec notamment, il faut le dire, hein, tous ces scandales autour de son frère Mathias Pogba, etc. C'est une spirale très infernale qui gravite autour de Paul, malheureusement, il faut le dire.
Non, je faisais un peu d'humour sur ce sujet très sérieux.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est
toujours sérieux.
Juste pour dire que le football est gangréné par les transfusions sanguines, par le PO, par les hormones indétectables. Et Jouba le souligne très très bien.
Oui.
Je suis un peu inquiet quand même.
Alors,
je suis quand même inquiet à vous entendre. Parce que là, après avoir écouté Jouba et Mourad à l'instant, tout le monde est pourri, quoi. Tout le monde est pourri selon vous. Ce n'est pas le cas.
Non, c'est vrai qu'il y a
moins des contrôles dans le football, hormis les compétitions internationales où toutes les sélections, où tous les clubs sont, enfin les sélections notamment, sont contrôlées au moins une fois dans les compétitions internationales. C'est vrai, il y a moins de contrôles, mais c'est vrai aussi que tout le monde n'est pas pourri. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire de Festina, rappelez-vous quand même, dans le cyclisme. C'est vrai qu'il y a eu des cas de dopage aussi moins que dans d'autres sports, dans le tennis. Mais on pourrait parler de l'haltérophilie. Et là, on pourrait dire tout le monde est pourri. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas généraliser. Je comprends bien quand Jouba utilise les mots systémiques, mais la connotation du mot systémique,
ça veut dire que ce serait institutionalisé.
Et ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas pourri. C'est vrai qu'aujourd'hui, la préparation d'un joueur professionnel passe par une hygiène de vie qui comporte aussi une alimentation saine et qui comporte aussi des compléments alimentaires. Mais tous les compléments alimentaires ne comportent pas de la créatine à des quantités prohibées, ne comportent pas de la testostérone testostérone à des quantités énormes. Donc, faut pas non plus généraliser. Hein. Soyons pas non plus défaitistes à ces points-là. S'il s'est fait prendre, en attendant la contre-expertise, mais s'il s'est fait prendre, qu'on ne vient pas me dire que c'est un tout jeune qui savait pas ce qu'il mangeait. C'est un joueur professionnel, international, avec l'équipe de France, avec qui a joué les plus grands clubs européens. C'est quand même quelqu'un d'expérience et s'est laissé conseiller par un médecin ami d'un ami. Écoutez, ouais. Permettez-moi de douter
c'est
quand même
très,
un tout
c'est
petit
pas très,
peu.
Pas très ouais. professionnel.
En fait, si, alors, c'est pas ça, Mickaël. Bah, oui, avant de terminer avec Jouba.
C'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on parle d'un joueur professionnel qui se fait, entre guillemets, épingler pour de la prise de testostérone. Moi, ça me paraît, c'est soit quelque chose, soit entre guillemets un complot, soit il a pris quelque chose comme ça et il s'en est pas rendu compte, mais ça me paraît je sais pas.
Oui.
C'est quelque chose qui me laisse un peu sans voix, ce genre d'affaire. Oh. Étant donné qu'on est quand même dans un monde qui est dans un football qui est quand même
comment? Ce n'est pas parce qu'on prend une pilule qu'on donne positif. Il faut prendre une, deux, trois, quatre et sur un certain temps. J'ai vu un verre de quelqu'un d'autre et voilà que je suis
c'est un programme que tu prends d'un jour A à un jour B avec des entraînements, etc. C'est quelque chose qui est quand même encadré, ouais. Sachant que selon l'information, donc cette prise, ce complément alimentaire serait autorisé aux États-Unis,
ouais, voilà,
et pas autorisé en Italie. Donc à un moment donné, quand tu prends un produit comme ça, t'as un minimum de vérification, de précaution à prendre.
À haut niveau.
Moi, c'est juste pour éviter de diaboliser Pogba trop tôt. Ouais. D'accord. On attend justement la contre-expertise.
T'as vraiment l'impression qu'on diabolise Pogba?
Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un acharnement médiatique.
Non, c'est quelqu'un qui est très médiatisé.
Justement, juste pour finir, parce que et aussi mettre en avant les décalages qu'il y a entre les officiels de la FIFA, comme le médecin-chef, je crois que s'appelle Jviri Dvorak, qui avait dit le dopage est inefficace dans le football versus ce que nous on a constaté depuis le Roger Rocher de Saint-Etienne, l'OM de Bernard Tapie, la Juve des années 90, ouais, et aujourd'hui Paul Pogba. C'est tout, c'est juste là. Évitez de diaboliser Pogba, premier temps. On attend la contre-expertise, l'internationalité, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du football depuis les années 20.
Moi j'aimerais juste poser une question.
Hervé, Jouba peut-être va te répondre.
À mes collègues autour de la table.
Les auditeurs aussi.
Enfin, où commence le dopage dans le football? Enfin, je veux dire, quand t'as les footballeurs qui prennent de la créatine, qui se font injecter des embryons de cheval ou des fœtus de cheval en Ukraine, qui jouent sous infiltration, ou alors qui prennent des anti-inflammatoires ou de la cortisone, est-ce que c'est pas aussi considéré comme une forme de dopage? La limite, elle est très fine.
J'imagine qu'il y a des spécialistes.
C'est une question des quantités.
Tu vois, c'est très fine entre des produits qui ont véritablement un rendement sur tes performances sportives ou sur ta capacité à récupérer plus vite ou à récupérer d'une blessure plus vite. Je trouve que la frontière, elle est vraiment très fine. C'est ça que je demande. Où commence le dopage et où il se termine?
Jouba, on termine avec le dopage. On va passer à l'équipe de France.
La règle, c'est secret. À partir du moment où c'est secret, ben pour moi, c'est des produits dopants. On n'est pas sur des produits grand public. Et je pense que c'est un des critères qui fait qu'on est sur des produits dopants.
Oui. Voilà. Jouba, on l'écoute.
Non, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important aussi à signifier. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prend pour bouc émissaire Pogba. On aurait pu s'intéresser à bien d'autres cas au préalable. Aujourd'hui, on sait que la FIFA, qui est l'instance dirigeante à l'échelle internationale, a laissé faire des scandales, moult scandales, et intervenu aujourd'hui dans l'affaire de Rubial pour le bannir quasiment du football à vie. Pourquoi la FIFA n'est pas intervenue quand on avait une institutionnalisation du foot, du racisme?
C'est une affaire de testostérone aussi, hein, Rubial.
Pourquoi la FIFA est intervenue là alors que on a des affaires de racisme avec Noël Le Graët depuis je ne sais combien de temps et la FIFA n'est jamais intervenue? C'est-à-dire que aujourd'hui Pogba est servi de bouc émissaire parce que
je mets tous les guillemets
adéquats,
bien sûr.
C'est-à-dire que
il a été testé positif, l'information est sortie
et on voit de quelle origine on ne voit de quelle origine il est, Pogba. Donc, il est servi de bouc émissaire.
Je pense pas, c'est Jouba qui le dit. Je pense que ça aurait été n'importe quel autre joueur. Médiatisé, surtout que Pogba, c'est un joueur qui est assez clivant quand même sur la planète football. Donc, moi, je pense que n'importe quel joueur un petit peu clivant comme lui aurait eu le même traitement.
Ça me fait penser un peu au contrôle au fascisme.
Merci Jouba. Il reste avec nous, Jouba. On doit enchaîner justement sur le second dossier de cette émission. On le rappelle, c'est la discussion qu'il y a eu notamment ce week-end, Didier Deschamps, longue discussion sur le terrain avec Antoine Griezmann à l'entraînement, mais ce mardi soir justement, adversaire d'un soir lors d'Allemagne-France, mais lié à vie peut-être par le succès avec l'Olympique de Marseille. On parlait des fameuses coupes européennes hier soir et en Ligue des Champions en 93, c'est vrai, Rudi Völler, sélectionneur de la Mannschaft par intérim, et aussi Didier Deschamps se retrouve donc ce soir du côté de l'Iduna Park pour ce match amical en reconstruction, cette équipe de France, peut-être avec Griezmann en grand favori, Mourad peut-être, le faire reculer, le faire avancer, en tout cas, c'est l'homme de Didier Deschamps d'une certaine manière, l'homme préféré peut-être, c'est pour ça qu'on s'est exclamé de le mettre en titre de cette émission, oui, le grand favori, Antoine Griezmann,
équipe
de France.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire le grand favori, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, Antoine Griezmann, c'est peut-être le joueur le plus impactant.
Le capitaine caché.
Voilà, le joueur le plus impactant de l'équipe de France ces 10 dernières années.
Ouais.
Après, il y a eu beaucoup de débats sur le paysage médiatique autour de la place d'Antoine Griezmann, s'il est top 3, top 5. Moi, pour moi, il ne peut pas être top 3 parce qu'il est passé complètement à côté de sa finale à la Coupe du Monde au Qatar. D'accord, mais top 5 clairement, il a été très impactant, il s'est réinventé, on a découvert des talents à la N'Golo Kanté à la Coupe du Monde 2022, il a su jouer plus haut, il marque beaucoup, donc voilà, c'est un joueur hyper important. Mais après, l'idéaliser ou l'idolâtrer, je pense qu'on va un peu trop loin autour d'Antoine Griezmann, sachant qu'il joue dans un club, l'Atlético Madrid.
On l'a fait dans le temps.
Certes, qu'il y a un club historique, il survole pas la Liga. Donc, moi, j'aime bien combiner les carrières en club versus les carrières en.
Il l'a survolé la Liga.
Les carrières en.
Il l'a survolé sur l'équipe nationale.
En équipe nationale, c'est un très grand joueur, mais en club, pour moi, c'est encore un ton en dessous. Voilà, pour qu'il soit top 3 du football français, ce qui signifierait que le football français est quand même dans un état. On va dire si Griezmann est top 3 tous les temps du football français, c'est compliqué quand même pour la place du football français.
Dur,
sur les
allez,
je sais pas ce que vous en pensez.
Réaction avec les consultants. Vas-y, mais
en termes de performance, Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016, c'est un joueur qui a été dans tous les gros coups. Bah, tu l'as dit, le joueur le plus impactant des 10 dernières années. En club l'année dernière avec l'Atlético Madrid, il fait quand même une énorme saison. Il met 15 buts, il met 17 passes décisives. C'est un peu son retour d'ailleurs, parce qu'avant ça, il a connu une passe un peu plus compliquée.
J'ai pas envie de te citer les stats de Karim Benzema la saison dernière ou la saison d'avant.
Ouais, mais Benzema n'a jamais eu l'impact que Griezmann a eu en équipe de France. C'est la différence.
Ouais, mais Benzema n'a pas eu la chance, justement. Benzema était interdit d'équipe de France. Benzema a subi une injustice par rapport à l'équipe de France.
Le fait est que.
Donc tu veux pas lui reprocher de ne pas avoir bien joué s'il n'a pas eu l'opportunité de porter ce maillot.
Il a eu l'équipe de France pendant plus de 6 ans. Il a eu l'opportunité. Est-ce qu'il a quand même
été banni pendant 6 ans.
Il a été banni, mais il a quand même eu un nombre de matchs assez conséquent avant ce bannissement. Il s'est jamais placé comme un joueur.
On est dans Minority Report, c'est-à-dire qu'on a lu
Minority Report.
En plus, je rentre dans ton débat alors que moi, je suis pas en train de critiquer Benzema ou quoi que ce soit.
Benzema, pourquoi il a parlé Benzema ? On a parlé de Griezmann.
C'est Mourad qui parle de
Benzema.
Mais moi, tout ce que je veux dire juste sur Griezmann, c'est que ça a toujours été un joueur qui a.
J'ai fait que des éloges sur Griezmann.
C'est un joueur. Oui, mais le fait que tu dises que si Griezmann est top 3 ou top 5 français, ça veut dire que le football français n'est pas au plus haut. Et je te trouve dur.
Pour moi, c'est pas un joueur majeur. Un joueur qui s'est potentiellement assis à la table de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. En 2000, c'était quand? En 2000.
Ça fait quelques années déjà.
En 2013. Et depuis, il a disparu de la circulation. Il n'est pas assez impactant. Il a eu. Après, peut-être que c'est aussi le fait qu'il ait disparu en finale de la Coupe du Monde au Qatar. C'est peut-être le fait qu'il y avait son bourreau sur le terrain, Lionel Messi, qui a peut-être été responsable de sa débâcle, de son passage infructueux au FC Barcelone.
Mais pour toi, c'est vraiment important que.
Mais pour moi, il y a des Thierry Henry, il y a des Platini, il y a des Raymond Kopa, il y a Zidane, il y a. Je sais pas, il y a moult joueurs qui passent devant Griezmann avant. Et et je ne relève pas que la statistique. Le football, c'est aussi, c'est aussi la beauté du jeu. C'est aussi, voilà, c'est aussi des émotions. Et je pense que Griezmann, voilà, c'est peut-être
un
ton.
Mais en fait, de quoi alors, on est en train de parler? Parce que c'est pas la question qui était posée.
Ouais.
Hein.
Alors, justement, vas-y.
On parle pas sur Griezmann par rapport à Platini, par rapport à Benzema. Non, non, c'était pas ça la question.
Par rapport à
aujourd'hui, depuis quelques années, surtout depuis, c'était déjà en 2016, 2018.
Ouais, Michael est fan de Benzema. Il a ramené Benzema sur le tapis.
22 surtout. Ça a été enfin,
José, on est obligé de dézoomer si on veut parler de Griezmann.
Mais Griezmann était l'homme essentiel de cette équipe de France. Il a un rôle important dans cette équipe de France. Et c'est vrai qu'il, comme toute l'équipe de France, a raté, entre guillemets, pendant 70 minutes sa finale. Mais il a été un homme décisif tout au long de du mondial. Et puis, à un moment donné, il a pris quand même les clés de l'équipe de France. Quand les Pogba ne sont pas là, quand le N'Golo Kanté ne sont pas là, ah bah, on est allé chercher Griezmann quand même. C'est lui qui a pris les clés de cette équipe de France. Et puis, tu parles du club, l'Atlético de Madrid.
Oui.
Bah, c'est vrai qu'il y a eu quand même une baisse de régime pendant les deux années où il était à Barcelone, où il n'était pas bien, où il n'avait pas la confiance, il n'était pas en confiance non plus. Mais depuis qu'il est rentré, qu'il est revenu sur l'Atlético de Madrid, est un homme indispensable aussi à l'Atlético de Madrid. Il a un niveau très haut, donc pour l'équipe de France, aujourd'hui, d'autant plus qu'il est très bien accompagné.
Et l'Atlético Madrid qui a un parcours essentiel. En deçà de certains clubs comme le Real Madrid ou le Barça. Ils ne sont pas champions d'Espagne, ils ne sont pas finalistes de la Ligue des Champions.
C'est sûr pour toi. Mais la question n'est pas aujourd'hui de savoir si dans l'ensemble de sa carrière, il est meilleur que Benzema, meilleur que Pogba, meilleur que Platini ou meilleur je ne sais pas qui.
C'est Michel qui m'a emmené sur ce terrain-là.
Aujourd'hui,
même pas comparaison entre Benzema et Griezmann.
C'est quand même essentiel à l'équipe de France.
Bien sûr.
Et il a gagné sur le terrain. Et il n'est pas le capitaine parce qu'il n'a pas le brassard, mais dans la
cachés,
réalité
hein.
du vestiaire, il est certainement le capitaine que l'équipe de France avait besoin.
Bilal, si tu me permets.
Allez, vas-y, on te permet.
Je suis d'accord avec les deux, avec les deux parties. Je vais couper la poire en deux.
Alors.
Je pense que voilà, c'est le fils spirituel de Deschamps. Il fait partie des tauliers, des joueurs référents de Deschamps depuis plusieurs années. Tant par ses qualités de leader, par ses qualités de cadre, que par ses qualités footballistiques. Après, j'aimerais mettre un bémol. Il a quand même connu un gros passage à vide en équipe de France entre 2019 et 2021. Ça coïncidait bizarrement avec son passage à vide au Barça. J'aimerais juste aussi recontextualiser les éloges de Griezmann. C'est-à-dire que c'est un joueur que lorsque les médias l'encensent, c'est souvent pour ses qualités d'abattage, pour ses efforts défensifs, pour sa capacité à savoir se mettre au diapason, pour ses qualités de repli défensif.
Des qualités alors que c'est quand même palpable. Voilà.
Alors que c'est quand même initialement un joueur offensif. C'est quand même un attaquant. C'est quand même un joueur qui a l'Atlético de Madrid.
Sauf qu'il apporte à Deschamps, Clairefontaine. C'est des choses qu'on peut pas mesurer sur le terrain.
Je
dis pas qu'il a beaucoup évolué.
Je dis pas le contraire. Non, il a
énormément. Je l'ai dit en préambule.
Tu peux pas dire qu'il a évolué. Il a évolué parce que à l'Atlético de Madrid, il joue 9,5 derrière soit Morata, soit Memphis. Et quand il joue à l'équipe de France, il joue limite numéro 6.
On va revenir à Juba.
En équipe de France, il joue pratiquement comme un milieu défensif. Moi, je ne remets pas en question le talent ou les qualités techniques de Griezmann.
On n'en parle pas.
Je dis juste que quand les médias français, les médias mainstream le lancent ou le mettent sur un piédestal, j'ai quand même l'impression que c'est rarement pour son apport offensif, pour sa capacité à être un playmaker, mais plus pour sa capacité à être solidaire, à faire les efforts, à revenir parfois tacler, à revenir défendre, à prêter main forte à sa défense.
C'est son rôle aujourd'hui.
Je trouve que c'est réducteur. C'est pas que tacler, défendre. De Griezmann, c'est le lion de Deschamps. C'est le lion entre l'attaque
et le milieu.
C'est
fou parce que quand Benzema a eu une période de disette en équipe de France et qu'il marquait pas, mais qu'il faisait un gros abattage défensif, qu'il était à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, qui jouait pour l'équipe.
Ouais, mais là, c'est l'homme d'avant.
Benzema ne marque pas assez. On comptait les minutes. C'est minutes de disette en équipe de France. Et quand Griezmann ne marque pas, on le fait redescendre d'un cran.
Mais
on
le reproche
de
Et justement, on dit qu'il a su se réinventer. Moi, c'est clairement ma vision du football.
Morata a raison. Souvenez-vous, quand Benzema revient en équipe de France et qu'il y a ses matchs de préparation pour l'Euro 2021,
il y a eu plusieurs de nos confrères qui comptaient le nombre de minutes où Benzema n'avait pas marqué. C'est-à-dire que si Benzema fait deux matchs sans marquer, on commence déjà à dire oui, est-ce que c'était bien de le ramener en équipe de France. Mais Griezmann, il a fait deux ans laborieuses sous le maillot tricolore. Et on disait non, mais c'est parce que maintenant il a changé de rôle. Enfin, il y a un peu de poids de mesure.
Merci Hervé. On va revenir rapidement sur le cas de cette équipe de France face à la Mannschaft du côté de Linden Park à Dortmund. En match amical à partir de 21h. À de suite pour la dernière partie.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en cette dernière partie, 20h40, avant d'accueillir Vanessa, on le rappelle, gagnez vos places pour le concert tous avec le Maroc en partenariat avec nos confrères d'M6. C'est rien de plus simple. Vous vous dirigez sur le site internet de beurrefm.net, beurrefm tout attaché, .net, et voilà. Et vous essayez de remporter un nombre de places. Pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, rien que pour vous, tous avec le Maroc concernant cette tragédie survenue dans la région de Marrakech. Le 0153483000, vous faites comme Jouba. On va le reprendre avant la fin de cette émission. On est toujours en compagnie de Mickaël, Hervé, Mourad et de la partie sans oublier Ctrl-C et le coach Tolé. Je sais pas d'où il nous vient, Bratislava ou Vladivostok. Et il en est arrivé, voilà. Le super sub, il est là. C'est le dernier arrivé dans ce magnifique plateau.
Toujours en retard, comme un bon vieux tacle de Nicolas Palois.
Ah, Palois, que nous aimons. Je m'aime bien Palois, même Madar. La dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, cette semaine encore, c'était Foudil à la réalisation. On le remercie tant que vous pouvez retrouver dès demain matin, 6h-9h, avec toute l'équipe de DJ Kim et aussi Mona. Le coach Tolé, je me retourne vers toi. Bonsoir le coach Tolé, l'équipe de France face à l'Allemagne du côté du Grand Mur Jaune, Indiana Park, prochain adversaire du Paris Saint-Germain.
Bilal, faut pas dire Signal Iduna Park quand l'équipe, quand la Mannschaft joue, mais il faut dire le Westfalen Stadium. Parce que
le Westfalen Stadium.
On rentre dans la loi, etc. etc.
Surtout avec les problèmes d'élocution.
C'est un peu tendu. Je sais pas. Moi, tu me parles en italien, il n'y a pas de problème. Après, je suis pas trop polyglotte, mais c'est bon, j'essaie de me débrouiller.
T'es plus un méditerranéen, toi.
Ah, la Méditerranée. Moi, je suis plus de ce côté-là. D'ailleurs, on pense à Rome avec notre consultant. C'est Nasser qui nous écoute ce soir. Un petit clin d'œil à Nasser qui a fait sa rentrée de l'autre côté des Alpes françaises. On pense à lui, à Nasser, le coach Tolé.
Bien sûr.
Marseille 93, c'est un peu ce duo des sélectionneurs.
Oui.
Rudy Voleur et Didier Deschamps.
Ah, bien sûr.
Ça pourra rappeler ça aux Marseillais, mais pas que.
On va pas y revenir, mais oui, Voleur a marqué en tout cas l'histoire de l'OM sur deux saisons, avec notamment la saison où l'OM gagne avec des champions. Il finit à 18 buts et puis formé un duo assez exceptionnel. Inattendu à l'époque, mais exceptionnel avec Alain Bocsich. 18 buts pour lui et 23 pour Bocsich. Qui avait remplacé Papin une saison. Et voilà, c'est vrai qu'on met souvent en avant rapidement le. La période marseillaise, Waddle, Papin, Moser. Mais cette équipe-là, qui sur le papier était peut-être moins forte, c'est elle qui l'a soulevée avec Bocsich, Voleur et Pelé juste derrière.
C'est vrai. Mmh. Ouais, c'est vrai. Justement, Ctrl-C.
Le renard des surfaces.
Ouais. Hein. L'Espagne joue face à Chypre.
Oui, l'Espagne.
On rappelle aussi.
Face à Chypre.
Ouais.
Parce que l'Espagne n'est pas encore qualifiée et c'est un match officiel. C'est à partir dans deux minutes, à 20h45.
Ils n'ont pas oublié leurs crampons, Ctrl-C, cette fois-ci.
Non, parce qu'ils jouent en Espagne. Donc ils les ont récupérés. Non, mais blague à part, vous imaginez quelle belle affiche cette match entre la France et l'Allemagne, la France, si l'Allemagne était encore une équipe de football.
Ouais.
Puisqu'ils sont à la rue depuis un certain nombre des matchs, mais c'est la réalité.
Ouais,
ils sont irréconnaissables. Ils l'ont été lors du mondial. Le seul match où ils ont joué moyennement bien, c'était justement face à l'Espagne. Pour notre malheur, parce que si on avait gagné le match, peut-être qu'on serait passé avant. Ouais. Mais bon, l'histoire est que ce match reste un match amical et qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et l'équipe des France pratiquement qualifiée pour l'Euro 2024. L'Allemagne qui va devoir se reconstruire. Vous avez parlé des Rudi Voleur, un entraîneur intérimaire à quelques mois de la Coupe d'Europe.
Oui. Qui n'exerce pas, parce qu'il est directeur sportif de la FED.
Il faudrait quand même que l'Allemagne se trouve un entraîneur fixe, qui soit capable effectivement d'amener cette équipe en à peine 8 mois à faire quelque chose de pas ridicule lors de la Coupe d'Europe. Et puis cette rencontre, moi quand je pense à Rudy Völler,
alors il y a des gens disponibles.
Je pense notamment à, malheureusement à Rudy Völler et quelques-uns des crachats auxquels il était familier puisqu'il aimait bien cracher sur ses adversaires. Et Mourad le disait, c'était aussi un tacleur entre guillemets qui aimait bien tacler parfois vraiment au-delà de la limite qui était permise. Mais bon, ça reste une rencontre de deux grands joueurs et peut-être de grands entraîneurs si Rudy Völler venait à faire une carrière qu'il ne la fera pas.
En fait, alors, Mourad, vous l'avez bien souligné, Michael. Rudy Völler, il était sur le banc d'un Mannschaft à la Coupe du Monde 2002, c'est ça ? Et il aurait pu gagner, comme Didier Deschamps, la Ligue des Champions à la fois en tant que joueur et à la fois sur le banc, mais bon, il fallait compter sur un doublé de Ronaldo, R9, sur le moment le plus grand joueur de tous les temps. Et il n'y a pas de débat. Après, si vous voulez débattre, on peut débattre.
Ouais, on n'a pas le temps.
Plus que Griezmann,
peut-être pour une autre.
Ouais, ça se tape avec Antoine Griezmann. Mais
Rudy Völler, tout ça pour faire un focus sur le football allemand. Pour moi, je suis plus très fan du football allemand qui, pour moi, s'est dénaturé. Il y a eu une révolution au niveau du football allemand. Ils ont voulu influer un peu plus de technique. Moi, je suis nostalgique des joueurs allemands.
Des gros sabots.
Des genres de bombers, pas très élégants, mais qui faisaient mal à l'adversaire. Donc, on ne retrouve plus ces profils-là.
Mais est-ce que c'est pas cette révolution, excuse-moi de te couper, qui les aura permis de remporter la Coupe du Monde 2014?
Ouais, mais je pense que ça, c'est un épiphénomène. Je pense que justement, le passage de Guardiola au Bayern a encore bourré le crâne du football allemand et les a dénaturés. Le football allemand avant la Coupe du Monde 2014 gagnait beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont trois Coupes du Monde, trois Coupes du Monde avant celle de 2014. Donc voilà, et puis ils étaient beaucoup plus impactants. Dès qu'on affrontait les Allemands, on n'avait pas l'impression d'affronter une équipe de Guardiola bis. Donc voilà, moi c'est ce côté-là. Après, ils traversent la crise la plus importante. Donc peut-être que ça n'a pas porté ses fruits. Une des crises les plus importantes de l'histoire du football allemand, il y a celle-ci actuellement et il y a celle d'avant la Coupe du Monde 2006. Donc moi je pense que le salut, parce qu'en 2006 le salut était passé par la mobilisation autour des stades, parce que c'est un vrai pays de football. À la porte de Brandebourg, il doit y avoir 100 000 personnes à la Coupe du Monde 2006 quand ils diffusaient les matchs en plein air. Donc là, je pense que ça va passer par là, le renouveau du football allemand. Enfin, en tout cas, s'ils vont sortir la tête de l'eau, c'est la mobilisation autour des stades. Il y a des grands stades, c'est un gros public. Et je pense que le seul salut passera par là et éventuellement de Nagelsmann.
Ouais, juste pour te poser une question, est-ce que. Enfin, tu parles de salut, de renouveau. On peut aussi ajouter qu'il y a certains postes clés de la sélection allemande où il y a une forme de carence.
Oui, le poste d'avant-centre, par exemple, tu peux pas gagner de compétition si t'as pas d'avant-centre.
Voilà, ils sont quand même allés à la Coupe du Monde avec Wolfskrug, un mec qui était quand même inconnu au bataillon. ça monte quand même de latéral droit. Là, lors du dernier match, on avait Hansi Flick qui a fait redescendre au poste de latéral droit Kimmich, qui ne jouait plus à ce poste-là depuis plusieurs années, au poste de latéral gauche, depuis comme le départ en retraite de Philippe Lahm est quand même pas non plus de grands joueurs qui soient vraiment affirmés. Donc il y a quand même pas mal de carences à certains postes clés. Enfin, moi je pense que peut-être que c'est un problème au niveau de la formation.
On est très très loin du proverbe de Gary Lineker qui disait le football est un sport qui se joue à 22.
Et voisin
c'est toujours les Allemands qui gagnent. Angleterre, Allemagne. Andreas Bremeu, Gary Lineker. Là aujourd'hui, on est sur des profils clones. Gundogan, Moussiala qui est très fort. Ils ont peut-être une petite génération sur lesquelles ils peuvent compter. Mais je pense que c'est pas assez talentueux pour aller au bout.
Je pense que ça manque de talent à certains postes clés et ça manque peut-être un peu de caractère. Je pense que ça ça manque un peu de leadership.
Aux antipodes de l'Allemagne traditionnelle.
Oui, voilà, quand t'as connu des mecs comme Effenberg.
Un
joueur que je
kiffe. Janker aussi.
Ça manque un peu de ce genre de figure. Peut-être que les joueurs actuels sont peut-être un peu trop lisses. À des mecs comme Gundogan, à des mecs comme Kimmich, à des mecs comme Leroy Sané, qui n'ont pas forcément ce côté leadership, ce côté.
Le coach Tolé.
Je pense à Kaya Wert, qui pour moi, si tu ne dis pas qu'il est allemand.
Non, mais ça me fait
plus.
Pour rejoindre Mourad, faut oublier, il y a quelques années quand même, 82 finalistes, 86 finalistes, on parle de Coupe du Monde, sans oublier l'Euro, 90 vainqueurs, 94 quart de finaliste du Mondial, 96 vainqueurs de l'Euro. Non, mais ils surdominaient le football mondial, entre guillemets, avec le Brésil et européen.
La RFA et la RDA, c'était même pas l'Allemagne dans sa totalité.
C'est devenu la RFA après, exactement. Mais comme le dit, alors c'est vrai que sur le papier, même si. Comme le dit Hervé, il y a des carences, il sait certainement mieux que moi. quand on voit quand même l'effectif allemand, on se dit quand même à chaque fois, à chaque début de compétition, l'Allemagne, on les quand même considère comme des,
des favoris. Des outsiders,
ouais, des favoris. Il y a quand même, des postes où tu te dis, attends, il y a quand même moyen de faire un truc.
Attention,
et au final, malgré le talent, et c'est ça qui m'étonne un peu, c'est que contrairement à la génération vieillissante de Matthäus, où bon, les mecs avaient 35 ans, on sentait qu'il y avait un vrai souci au terme de, au niveau de la formation. Ouais. Là, j'ai le sentiment que le talent est quand même présent. Ça ne suffit pas. Par contre, comme tu disais, Mourad, il y a plus cette niaque qu'on a connue.
C'est redoublement facile.
C'est ça qui est assez dingue, c'est que il pensait, en prenant Hansi Flick, qui avait tout gagné avec le Bayern, il pensait repartir sur une bonne lancée. Et là, au final, les 5 derniers matchs de l'Allemagne, c'est un nul, 4 défaites, et c'est pas des gros adversaires en fait en face. La dernière victoire, c'est contre le Pérou en mars. Sinon, c'est défaite contre la Colombie, match nul contre l'Ukraine, défaite contre la Pologne et défaite contre le Japon, 4-1.
Oui, mais il y a plus petite équipe.
À ce niveau-là,
l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui, il y a des joueurs qui sortent du lot. La Colombie, c'est un pays de football.
C'est d'accord, Mourad. Mais là,
Japon, quand tu les alignes, quand tu parles de Mitoma,
ce que je veux dire, c'est que ce sont des très bonnes équipes. Je suis d'accord avec toi. Mais t'es l'Allemagne et c'est que ça fait quand même une série de 5 matchs sans victoire. Que tu perdes contre le Japon, que tu perdes contre la Colombie, c'est pas un problème.
Après, c'est une spirale infernale.
La spirale qui se passe actuellement en Allemagne, elle est désastreuse. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a des carences. Il y a certaines carences à certains postes. Il n'y a plus de gros numéro 9, il n'y a plus de profil à la Klose à l'époque.
Il faut une union sacrée autour de l'entraîneur, comme union à l'époque en 2006, il y avait une union sacrée autour de Klinsmann. Là, je pense que le prochain, alors potentiellement, soit j'ai identifié, je pense que vous le savez aussi, Nagelsmann serait peut-être le profil idéal, et il faudrait qu'il y ait une union sacrée autour de lui. Peut-être Glasner de Francfort, mais après Glasner, c'est un Autrichien.
Mais
un
c'est vrai que
à la tête de l'Allemagne,
c'est vrai que quand on essaye de penser à des
joueurs
à
intervenir,
quand on essaye de penser à de vrais tauliers comme les joueurs que vous avez cités précédemment, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. On peut penser à Thomas Müller forcément, mais après voilà, Thomas Müller, il commence un petit peu aussi à prendre de l'âge, et on n'a pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui peuvent aujourd'hui faire cette union sacrée. Il va falloir que le sélectionneur qui arrive ait un discours qui soit convaincant. Et surtout Nagelsmann, vu ce qui s'est passé dernièrement, vu les résultats qu'il a pu avoir avec le Bayern, même s'ils n'ont pas été si mauvais que ça, mais il y a eu des problèmes.
Après analyse, quand tu vois le passage de Tuchel, tu dis que finalement Nagelsmann, c'était peut-être pas un si mauvais choix que ça.
Il y a eu des problèmes en termes de management avec Nagelsmann au Bayern. Et savoir est-ce qu'un entraîneur comme ça, qui a eu des soucis récemment dans les vestiaires, quand il a été annoncé au Paris Saint-Germain, qu'il prenne un adjoint pour avoir une meilleure relation avec le vestiaire, est-ce que cet homme-là est capable d'arriver en Allemagne et de pouvoir remettre ça en forme? Je suis pas forcément sûr.
Et n'est pas sûr.
Surtout Mickaël, est-ce que, comme l'a dit Mourad, Nagelsmann ou un autre, excuse-moi, Juan José, est-ce que l'environnement autour du futur sélectionneur sera aussi bon? Moi, j'ai le sentiment que t'as ces anciennes gloires allemandes qui se tirent un petit peu la bourre, là, qui ont chacun leur coach et que, c'est un peu compliqué, quoi.
Cette crise, quand même, elle date parce que, rappelez-vous, le mondial 2018, aussi l'Allemagne était à la traîne. Elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. D'ailleurs, elle n'est pas passée
le premier tour.
Elle a été éliminée lors du premier tour aussi. Donc, et vous parlez de Nagelsmann, je suis d'accord avec vous dans le sens où il a peut-être la qualité technique pour diriger cette équipe d'Allemagne, mais ce n'est pas son homme de vestiaire. Il l'a prouvé. Effectivement, il a été viré parce que il a eu des problèmes en vestiaire, et l'entourage de Nagelsmann, notamment sa compagne, est très mal accepté. Les journalistes ont fait passer des scoops. C'est pour ça qu'il a été d'ailleurs viré du Bayern. Peut-être que vous pouviez penser aussi à Xabi Alonso pour entraîner l'Allemagne.
Très bonne idée. Je n'avais pas pensé à Xabi Alonso.
Vu comment ça se passe au Bayern, je devrais plutôt succéder à Tuchel dans les prochains mois.
Ou à De La Fuente. Moi, je verrais bien revenir en Liga. Comme je disais, moi, je suis plus adepte de garder cette ligne, cette identité en équipe nationale. J'ai pas envie de mettre un Xabi Alonso à la tête de la Mannschaft parce que, voilà, j'ai pas envie de voir la Mannschaft jouer comme la Roja de. Qui a dominé le football mondial entre 2008 et 2012.
On a Malik de Troyes qui nous passons le bonsoir aussi, Mounia de Pau, sans oublier Nasser et Abdel. Voilà, Abdel depuis Paris. qui nous écoutent. Et on vous rappelle rapidement, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour gagner vos places pour le concert Tous avec le Maroc, en partenariat avec nos confrères de M6, le concert aura lieu justement demain soir sur l'antenne d'M6. Un plus simple, beurrefm.net, beurrefm, tout attaché.net, voilà, et essayer de remporter justement des places concernant ce fameux concert concernant la tragédie, excusez-moi, survenue sur la région de Marrakech. La suite des programmes avec Vanessa qui arrive, 21h-23h, et nous on se retrouve dès demain. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.